Habacuc, premier chapitre. Donc chapitre 1, verset 1, « Oracle révélé à Habacuc, le prophète. Jusqu'à quand, ô Éternel, j'ai crié, et tu n'écoutes pas. J'ai crié vers toi à la violence, et tu ne secours pas. Pourquoi me fais-tu voir l'iniquité et contemples-tu l'injustice? Pourquoi l'oppression et la violence sont-elles devant moi? Il y a des querelles et la discorde s'élève. Aussi la loi n'a-t-elle point de vie? La justice n'a-t-elle point de force? Car le méchant triomphe du juste, et l'on rend des jugements iniques. Jetez les yeux parmi les nations, regardez, et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on ne la racontait. Voici, je vais susciter les Chaldéens, peuple furibond et impétueux, qui traversent de vastes étendues de pays pour s'emparer de demeures qui ne sont pas à lui. Il est terrible et formidable, de lui seul viennent son droit et sa grandeur. Ses chevaux sont plus rapides que les léopards, plus agiles que les loups du soir, et ses cavaliers s'avancent avec orgueil. Ses cavaliers arrivent de loin, ils volent comme l'aigle qui fond sur sa proie. Tout ce peuple vient pour se livrer au pillage. Ses regards avides se portent en avant et il assemble des prisonniers comme du sable. Il se moque des rois et les princes font l'objet de ses railleries. Il se rit de toutes les forteresses, il amoncelle de la terre et il prend. Alors son ardeur redoutable, il poursuit sa marche et il se rend coupable. Sa force à lui, voilà son Dieu. N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon saint? Nous ne mourrons pas. Ô Éternel, tu as établi ce peuple pour exercer tes jugements. Ô mon rocher, tu l'as suscité pour infliger tes châtiments. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu, quand le méchant dévore celui qui est plus juste que lui? Traiterais-tu l'homme comme les poissons de la mer, comme le reptile qui n'a point de maître? Il les fait tous monter à l'hameçon, il les attire dans son filet, il les assemble avec serrés. Aussi est-il dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi il sacrifie à son filet. Il offre de l'encens à ses raies, car par eux sa portion est grasse et sa nourriture succulente. Videra-t-il pour cela son filet et toujours égorgera-t-il sans pitié les nations? Et je vais juste lire le premier verset du chapitre 2. « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerai après ma plainte. » On ne connaît pas très bien ce prophète, mais c'est un prophète extraordinaire. Moi, je l'aime beaucoup, vous allez comprendre pourquoi. Mais le mot Habacuc, enfin son nom signifie « celui qui étreint », ou c'est quelqu'un qui embrasse, hein, c'est quelqu'un qui prend dans ses bras, mais en même temps, il y a une idée de lutte derrière cela. Et ça ressemble parfaitement à cet homme-là, qui embrasse et qui lutte en même temps. Les commentateurs disent que c'est un homme sensible et spirituel et qui aimait absolument ses compatriotes. Il avait un fardeau, en fait, pour son peuple à ce moment-là. On va voir après pourquoi. Luther disait d'Habacuc, « Habacuc est celui qui étreint ou celui qui étreint un autre, le prend dans ses bras. » Il étreint son peuple, il le prend dans ses bras, c'est-à-dire qu'il le console et le porte comme quelqu'un étreint un enfant qui pleure, afin de calmer avec l'assurance que Dieu voulant, tout ira bientôt mieux. Là, ça parle peut-être aux parents, vous avez déjà étreint votre enfant hein, quand il pleurait, quand ça n'allait pas, on essaie de dire que tout va aller mieux. Un autre auteur disait « Habacuc n'était pas un homme centré sur lui-même, sur son confort et sa sécurité, comme sur celle de sa famille. Véritable patriote, il était profondément affligé par la condition spirituelle et morale de ses patriotes. Il aimait sa nation, mais il savait qu'en continuant à violer les lois de Dieu, hein, comme il faisait, elle s'approchait toujours plus du précipice de la destruction. Par conséquent, deux questions ont jailli de ses lèvres. Jusqu'à quand et pourquoi tout cela va arriver ?» On ne sait pas très bien d'où il vient. On pense que c'est peut-être quelqu'un qui vient d'une famille de sacrificateurs, de prêtres. Hein. Certains pensent que c'était un chantre, quelqu'un qui composait la musique ou qui chantait, parce que le chapitre 3 est un des plus beaux chants, on pourrait dire, poésie que l'Ancien Testament a. Donc on pense qu'il était peut-être chantre dans cette idée-là. Il est à peu près à la fin du 7e siècle, hein, environ. On n'arrive pas vraiment à dater, on pourrait dire entre 627 et 586 avant Jésus-Christ. On sait que Jérusalem sera détruite en 587 avant Jésus-Christ, donc c'est bien avant, puisqu'il est en train de prévenir le peuple de ce qui va arriver. Et donc, il rapporte sa propre expérience spirituelle. Généralement, les prophètes, en fait, ils parlaient pour le peuple, etc. Lui, il est en train de, excusez-moi le terme, s'engueuler avec Dieu, quelque part. Et c'est ça. Quelque part. Il est en train de discuter avec Dieu, de se plaindre et de dire des choses qui sont dans son cœur et ne se gênent pas. Et c'est pour ça que j'aime bien ce prophète et on va voir pourquoi. Donc, voilà notre cher Habacuc, quelqu'un qui ose aller vers Dieu et lui dire ce qu'il a franchement dans le cœur. Est-ce qu'on ose faire ça, des fois? Oui, des fois, oui et non, moyennement. Alors, il y en a qui sont comme moi, c'est bien. Mais Habacuc, avant de parler à Dieu, il regarde autour de lui et voit le peuple de Juda qui est en plein déclin moral, en plein déclin spirituel. Et ce n'est pas le premier qui va les rappeler à l'ordre. Il y a plusieurs prophètes qui vont leur dire « continuez comme ça ». Dans Deutéronome, il est dit « à un moment, il y a un peuple qui va venir et va vous déporter ». Et ça va arriver à partir de 587. Moi, ça me rappelait aussi un peu le déclin moral de la France, quelque part. On a beau essayer de revenir sur les lois, toutes les choses qui sont en train de se mettre en place, on a beau prier pour cela, puis rien ne se passe. On a l'impression des fois d'être impuissant. Habacuc, lui, était une sentinelle de Dieu. Mais être sentinelle, ça veut dire aussi prendre certaines responsabilités et se poser des questions. On ne peut pas regarder la France en se disant « oui, je prie pour cela » sans se poser des questions. Et pourquoi on en est là? Pourquoi ces choses arrivent? Pourquoi Dieu ne fait rien? Vous étiez déjà frustré en demandant à Dieu quelque chose et rien ne bouge. Ça arrive souvent, hélas. Ou alors ça met du temps à venir, bien souvent. Habacuc, c'est la même chose. Il est face à l'injustice, non seulement d'abord du peuple, mais aussi, quelque part, et on va le voir, de voir ce peuple qui est plus pécheur encore qu'eux, qui va venir les fiches dehors, tout simplement. Il y a de quoi un peu s'énerver dans son cœur. Alors on peut comprendre ce cri d'Habacuc si vous avez aussi vécu un jour l'injustice. Vous avez déjà vécu l'injustice? Eh bien, souffrez, hein. Mais l'idée, ce n'est pas simplement de voir notre pauvre petit cœur avec notre injustice, parce que ce n'est pas ça que Dieu va dire à Habacuc, mais c'est d'abord de devenir des sentinelles. On va voir un peu ce Habacuc comme sentinelle de Dieu. Première partie qu'on pourrait voir dans ce passage, c'est les versets 1 à 4, où la sentinelle partage, en fait, ou porte le fardeau de Dieu. Oracle, en fait, veut signifier en hébreu « fardeau ». On pourrait dire hein, « fardeau révélé à Habacuc ». Dieu, à un moment, décide de parler à son prophète et de lui transmettre son fardeau. C'est pas l'inverse, généralement, qu'on fait. C'est nous qui donnons nos fardeaux à Dieu, non? C'est plus simple. Mais là, quelqu'un était disponible. Et ça, c'est important. Il était disponible pour entendre le cœur de Dieu, on pourrait dire, le fardeau qu'il avait. Il va partager cela avec son prophète. Et toute la réponse, en fait, de Dieu va constituer l'oracle. Ce n'est pas la plainte de Habacuc, c'est ce que Dieu va répondre, en fait, à son prophète. Dieu cherche des sentinelles. Il n'y en a pas beaucoup. Sentinelle, c'est-à-dire quelqu'un à qui on peut transmettre la pensée. Alors aujourd'hui, il a transmis la pensée. Où ça?
Dans
sa parole. Mais est-ce que les sentinelles, entre guillemets, comme tout à l'heure les fameux livres qui restent 4 ans de côté, est-ce que les sentinelles lisent la Bible? Parce que si je ne lis pas la Bible, je ne peux pas recevoir le message du Seigneur. Et forcément, je ne vais pas être cette sentinelle alerte à regarder ce qui se passe autour de moi et à voir ce que Dieu me demande. On peut être une sentinelle encore aujourd'hui. Vous appelez pas peut-être Habacuc, mais on peut être une sentinelle aujourd'hui, prêt à entendre le fardeau de Dieu, prêt à prier pour l'injustice, prêt à prier pour que des guerres n'arrivent pas. Il y a eu un nouveau tir en Corée du Nord aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu un peu les infos, avec une bombe H. Est-ce qu'on prie pour ça? Est-ce que vraiment ça, ou on s'en fiche complètement, on va rentrer tranquillement regarder notre émission de télé tout à l'heure, et puis la vie continue jusqu'au jour où ça tombe, comme pour le peuple de Juda. Est-ce qu'on est une sentinelle dans notre âme? Habacuc, lui, a accepté de porter le fardeau, et il va faire plusieurs constats d'abord. Et ce constat, vous l'avez déjà peut-être tous fait, parfois Dieu semble complètement inerte. Priez, vous jeûnez, le calme. Vous regardez déjà? Là, vous arrivez encore, plus une fois. Dieu ne semble rien faire, et pourtant on pleure, on crie, parce que là, il crie jusqu'à la violence, il dit. Alors vous imaginez, c'est « Oh Seigneur, qu'est-ce qui se passe ?» Il y a vraiment toute son âme, toute son énergie qui est là-dedans, jusqu'à la violence. Et certainement qu'il a crié plus d'une fois, mais Dieu ne l'écoute pas. Enfin, Dieu ne l'écoute pas? Si, il l'écoute, mais Dieu est Dieu. Il semble aussi avoir l'impression que Dieu ne va pas le secourir, on ne va rien faire en fait dans cette situation. Et ça, c'est vraiment très frustrant. En fait, il a envie de se faire comprendre à Dieu. Et des fois, on crie à Dieu et on a l'impression qu'il ne nous comprend pas. Mais Dieu nous entend. Et Dieu savait même avant qu'on se mette à crier qu'on allait crier un jour, même jusqu'à la violence. Quelqu'un écrivait en parlant de tirer sur la corde, c'est Spurgeon, disait Lorsqu'un croyant prie, dit-il, il est semblable à un homme tirant sur la corde pour actionner le clocher, la cloche d'un clocher. Il tire la corde vers le bas et la cloche sonne en haut aux oreilles du Seigneur. Beaucoup, cependant, tirent si faiblement la corde de la prière que la cloche sonne à peine au ciel. D'autres l'actionnent que de temps à autre, mais ceux qui obtiennent réponse à leur demande sont ceux qui tirent la corde de toute leur force avec vigueur et persistance. Souvent, on pense que prier, c'est « Oh, Seigneur, s'il te plaît, je vais tout... » Ah, démission télé. Ah. Non, prier, à l'exemple d'Habacuc en tant que sentinelle, c'est vraiment un combat. C'est vraiment tous les jours, régulièrement, et avec toute son âme, avec toute son énergie. C'est ça, crier à la violence. Et si toute l'Église se mettait à prier comme ça, qu'est-ce qui se passerait? On ne le sait pas parce qu'on ne le fait pas. Eh oui. Mais si vraiment l'Église, pas forcément à l'Église ici, hein, je parle en général, dans ma relation avec Dieu, si vraiment je me mettais à crier à la violence, entre guillemets, parce que ça ne mérite peut-être pas autant, mais sérieusement, peut-être que beaucoup de choses changeraient en France. Timothée nous rappelle qu'il faut prier pour nos autorités. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu.
Elles nous ont été données par Dieu.
Parce que?
Elles nous ont été données par Dieu.
Non seulement, mais surtout, je suis un peu égoïste, mais...
Elle nous protège de la guerre.
De vivre en paix.
Vivre en paix. Pour vivre en paix. Vous aimez la paix?
Oui.
On est bien, hein, on est tranquille. Moi, je préfère là qu'ailleurs. Hein. Mais si on ne prie pas, il n'y a pas la paix. C'est pas moi qui le dis. Hein. C'est lié. Alors Dieu est plein de compassion et plein d'amour. Il a son plan pour la France, mais c'est lié. Et je pense que Habacuc, sans même avoir connu Timothée, oui, lui, il savait déjà qu'il fallait prier pour son pays. Et il priait fortement. Et le deuxième constat qu'il fait, c'est que Dieu ne semble pas réagir face au mal de Juda. Là, il ne s'intéresse pas aux Chaldéens, il s'intéresse d'abord au peuple. Il prie pour ce peuple, et ce peuple continue tranquillement dans l'iniquité, dans l'injustice. En fait, c'est l'habitude du peuple que de pécher tranquillement. C'est un peu l'habitude du monde en général. Hein. Il se dispute violemment, et il n'y a plus de justice, il dit, il n'y a plus de loi, plus rien n'est appliqué selon ce que Dieu demande. Un peuple qui ressemble parfaitement à la France, tout simplement. Et si Habacuc est devenu sentinelle pour Juda, je pense qu'on peut le devenir aussi pour notre pays, enfin j'espère. Ou alors c'est qu'on ne se rend pas compte qu'il n'y a plus rien qui se passe dans notre France, que cette France soi-disant chrétienne ne l'est plus du tout en fait. Elle n'a que le nom. Et puis il va constater ensuite que Dieu va employer Babylone pour punir Juda. Babylone c'est bien loin de Juda, mais c'est un grand peuple, on va en parler après. Hein. Et Dieu va lui montrer l'avenir à Habacuc. Et ces Chaldéens... qui sont les pires pécheurs qui existent au monde, vont être employés par Dieu pour venir punir Juda. Là, c'est le comble de l'injustice, non? Encore me laisser punir par quelqu'un de juste, pourquoi pas? Mais par eux? Vous imaginez un peu le cœur de ce pauvre Habacuc à ce moment-là. Pourquoi eux? Hein, et c'est ça qu'il ne comprend pas. Et il va faire, hein, vous l'avez vu à partir du verset 5, une longue description de ce peuple qui va apporter un châtiment terrible. Et si vous connaissez l'histoire de Juda, ils vont être déportés, et franchement, être déportés par Nebuchadnezzar, etc. On parle de la Deuxième Guerre mondiale, mais ça, c'est la gnognotte à côté de ce qu'ils ont vécu. Là, c'était terrible. Et donc, Habacuc, il est là, lui, il aime Dieu, il sait que Dieu est juste, etc. Ben, il est complètement perplexe. Qu'est-ce qui se passe? J'ai beau crier, j'ai beau pleurer devant Dieu, et pourquoi les hommes qui sont intègres vont devoir subir ça? Parce que bien souvent, hein, moi, ça me rappelle quand... Ils étaient dans la terre promise, quand ils étaient proches de la terre promise, hein, il y avait Josué et Caleb, si je me souviens bien, qui étaient prêts à aller dans la terre promise, et à cause du peuple qui doutait, ils ont dû tourner 40 ans. Ah, moi j'aurais dit, ah non, attendez, moi je suis d'accord d'y aller, moi je ne vais pas tourner 40 ans dans le... C'est injuste, parce que moi j'avais foi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont partis 40 ans tranquillement. Des fois, des situations où on se retrouve devant ce qui nous semble injuste, sans comprendre ce que Dieu veut dans notre vie. Alors pourquoi les hommes intègres doivent-ils connaître l'affliction? Une bonne question ça. Et à l'opposé, pourquoi les méchants, eux, sont prospères, connaissent la paix, font ce qu'ils ont envie? Vous n'avez jamais arrivé ça, de vous dire ça dans la tête, hein? On regarde les riches, des fois on se dit, ils font n'importe quoi, et ils prospèrent, et ils continuent, et ils maudissent même Dieu des fois. Et nous, on est tout gentil, on essaie de faire quelque chose. Et bon, c'est pas qu'à nous que ça arrive, c'est déjà arrivé il y a des siècles. Hein, et même dans les psaumes, il y a aussi un psaume comme ça. Qu'est-ce qu'on peut tirer pour nous aujourd'hui? Bah simplement que Dieu cherche encore des sentinelles, des gens qui sont au garde à vous, j'ai envie de dire, hein, et des personnes qui ont envie de porter les fardeaux de Dieu, qui prennent le temps de chercher peut-être ces fardeaux, de regarder autour d'eux, Hein. Dieu cherche des gens qui ne sont pas indifférents à ce qui se passe dans le monde. Alors, il ne s'agit pas d'être paranoïaque, d'être devant les nouvelles toute la journée, on s'entend bien. Mais il y a quand même, des fois, de l'indifférence. On s'en fiche des pays qui souffrent, qui sont dans la guerre. C'est loin de nous. Est-ce qu'il ne faudrait pas, des fois, être une sentinelle pour prier pour eux, pour l'Église persécutée, par exemple, tous ces chrétiens qui souffrent? Un jour, on va les rencontrer dans le ciel. Hein. « Bonjour, t'étais où ?»« Moi, en Corée du Nord. »« Ah, et tu savais qu'il y avait des prisonniers en Corée du Nord ?»« Bah oui, t'as prié ?»« J'avais pas le temps. Hein. Attends, je travaillais. Ah, » ouais. Alors, je dis pas qu'il faut faire que ça, mais quand même, il y a un petit équilibre entre rien du tout ou rien du tout. Donc Dieu cherche encore des sentinelles, des personnes qui ne sont pas indifférents à ce qui se passe dans le monde, et peut-être en France. Hein. Et ces sentinelles, c'est des gens qui luttent à genoux. Alors, c'est qu'une image, mais si vous avez envie de vous mettre à genoux, c'est une belle expérience. Hein. Mais qui se mettent vraiment à genoux et qui ont à cœur de prier pour ces situations, pour ces difficultés. Si des lois passent des fois en France, hein, c'est certainement parce que l'Église ne prie pas suffisamment. Après, il y a aussi le plan de Dieu des fois. On ne comprend pas toujours. Mais je pense que l'Église ne prie pas suffisamment. Et il y a plein de choses qui passent, la morale qui change en France, etc. Et peut-être qu'on a notre part de responsabilité aussi. Ils ont la leur, évidemment. Mais voilà, comme Habacuc, moi je peux devenir une sentinelle. C'est-à-dire, il faut que je sois un vieux chrétien, un vieux briscard, comme on dit. Hein. Non, je peux être un enfant et être une sentinelle. Je peux avoir un an de vie chrétienne, je peux être une sentinelle. Normalement, au bout de 20 ans, on est devenu une sentinelle. Normalement. Eh oui. Mais tout le monde peut être cette sentinelle. Chacun avec son petit poste. Ah, si on pouvait partager maintenant les postes. Hein. Parce que maintenant, on veut tous une sentinelle, mais on va partager le travail. Ça serait bien, plutôt que prier pour la même chose. Mais tout le monde peut devenir une sentinelle. La sentinelle est sensible à ce qui l'entoure. Elle crie à Dieu. Pas toujours, hein. Elle ne crie pas tout le temps à Dieu, parce qu'il n'est pas sourd non plus. Mais elle crie à Dieu, et surtout, et comme Habacuc, il attend quelque chose. Souvent, on prie, amen, pof, et on s'en va. Puis 6 mois après, on se dit, c'est bizarre, Dieu n'a pas répondu à mon... Parce qu'on s'attend à rien, en fait. Des fois, on prie, mais on ne se dit pas que Dieu va peut-être réaliser, ou j'attends que Dieu réalise cela. Alors, je suis capable, des fois, d'attendre, allez, 1 jour, 2 jours. Hein. J'attends mes clients, là, ça fait 1 mois que j'attends mes clients. Il va falloir attendre encore plus longtemps, peut-être. Mais on doit attendre combien de temps? Vous n'avez pas attendu assez longtemps, hein? Il faudra attendre jusqu'à que, pour Habacuc, le peuple rentre, déporte Judas et tout Israël, pour qu'il y ait 70 ans qui se passent encore et un petit peu plus, selon certains textes. Et enfin, tout doucement, avec Esdras et Néhémie, ils vont rentrer de nouveau à Jérusalem. Il a attendu, je pense qu'il est mort entre-temps, plus de 80 ans, 100 ans, on va dire, avant que sa prière soit accompli. Vous êtes prêt à attendre 100 ans? Sans, vous n'avez pas le choix. On ne va pas dire à Dieu, moi, j'attends pas 100 ans. S'il veut mettre 100 ans, peut-être pour mettre des choses en place. Hein. Je connaissais, il y avait l'histoire d'un missionnaire qui a prié 40 ans, qui a évangélisé 40 ans, je crois que c'était en Chine, il me semble. Rien. Il est mort. Et puis, d'un seul coup, les chrétiens se sont mis à pulluler. Ils se sont convertis. C'est fou, hein. Alors, c'est pas parce qu'on voit rien bouger que Dieu n'agit pas. Je sais, c'est frustrant. J'aimerais de temps en temps un petit SMS pour me dire où tu en es, Seigneur, parce qu'on ne voit rien. Mais Dieu nous a laissé sa parole, qui est là pour nous servir d'exemple, et pour nous montrer qu'il y a des gens qui ont vécu la même chose que nous. Et justement, on va faire comme Habacuc, hein. On va garder ça un petit peu au fond, et on va apprendre, tout simplement. Mais Dieu va répondre à la sentinelle-là, pas forcément comme Habacuc aurait voulu. Dieu demande à Habacuc et au peuple de faire un constat. Et il dresse le portrait là, de cet ennemi qui va venir, et il dit « Soyez effrayés ». Dieu qui dit ça au peuple, « Soyez effrayés ». Dieu va envoyer les Chaldéens pour punir Judas et son péché. Juste un peu avant, Israël a été déjà aussi puni. Il dit « C'est une œuvre difficile à croire. » Quand c'est Dieu qui le dit, ça fait peur. Honnêtement, si c'est moi, éventuellement. Mais quand c'est Dieu qui le dit, ça devait être vraiment épouvantable ce qui attendait le peuple de Judas. Et c'était vraiment épouvantable. Mais il dit à sa sentinelle « Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Dieu ne peut pas. Il est saint. Et donc, non seulement il est saint, mais en plus, il les avait avertis dans la loi, dans Deutéronome, que s'ils exagéraient, à un moment, ils seraient déportés. Eux, ils ont dit, où est Dieu, à mon avis. Et là, évidemment, mais pourquoi le juste, lui aussi, va subir les dommages, hein. Ce peuple en France pêche, mais quelque part, moi, en tant que chrétien, je dois aussi subir des fois les dommages. Pourquoi? C'est pas juste, quelque part. Dieu pourrait faire le tri, non? Bon. Dieu vous répondra un jour. Et il parle de ce jugement de Dieu par les Chaldéens. Alors les Chaldéens, c'est des habitants de Babylone. Ils contrôlaient absolument toute la région, les postes importants. Le mot Chaldéen, c'est un synonyme en fait du prêtre de Bel Marduk, si ça vous intéresse. C'était un faux dieu, évidemment. Et même avant que Habacuc parle, Jérémie avait déjà prédit que ce peuple allait envahir Juda, dans Jérémie 5, 15 à 18. Alors on se pose la question si Habacuc et Jérémie étaient contemporains. On ne sait pas exactement, mais en tout cas, il dit que Nebuchadnezzar va venir avec son peuple et va venir détruire Jérusalem. Et la chose s'est accomplie en 587. Vous imaginez ce Nebuchadnezzar avec sa grande armée. Quelqu'un a vu le film 300 un jour ? Il y a un petit... Bon, c'est peut-être un peu romancé pour ceux qui l'ont vu, mais vous avez vu la cruauté de ce peuple ? Et c'est loin, c'est loin de ce que j'ai déjà lu. Caractéristiques des Chaldéens, ils avaient une réputation pour leurs chevaux, leurs cavaliers, leur cruauté et leur puissance. Ce n'est pas le gentil petit peuple qui arrive, oh, t'es pas gentil. Ils empalaient à tire-larigot, ils tuaient, ils ravageaient absolument tout ce qui était devant eux. Ils frappaient en fait de terreur l'âme de leurs adversaires. Ils avaient déjà gagné juste en entendant le nom, quand on entendait leur nom, c'est-à-dire la peur que ça faisait. C'était de redoutables combattants. Ils n'avaient aucune règle de conduite. On fait ce qu'on veut, quand on veut et comme on veut. Ça rappelle un peu le monde aujourd'hui, non ? Peut-être moins cruellement, même s'il y a une autre forme de cruauté, on va dire, l'argent, les puissances et tout ça, mais quelque part, le monde fait absolument ce qu'il veut. Donc finalement, on peut se comparer un peu à Habacuc et se replacer dans notre époque. Et il dit leur force et leur Dieu. Alors, c'était à cause de leur puissance qu'ils pouvaient se prendre pour des dieux, et Nebuchadnezzar se prenait pour un dieu, justement. Et Dieu va, à un moment, quand même l'abaisser. Donc Dieu peut agir quand il veut. Malgré le plus grand des ennemis, Dieu reste souverain. Eux comptaient sur la force militaire et en même temps, ils reniaient le vrai Dieu. Puis en même temps, écoutez, on y arrive, on a abattu absolument tout le monde, donc notre force est notre Dieu, forcément, compte sur eux-mêmes. Mais Dieu avertit quand même que ceux qui croient pouvoir agir seuls sans lui risquent d'être jugés aussi à un moment. Et Dieu va donner donc sa réponse à Habacuc. Mais Dieu dit, tu as prié, tu as montré l'injustice, etc. Mais moi, je te réponds que je vais juger ce peuple avec ce peuple qui est encore plus pécheur que Juda. Vous auriez répondu quoi, Dieu, là, comme ça ? Amen. Non ? Ça travaille le cœur, non ? Moi, ça m'aurait bouffé le cœur complètement. Et Habacuc crie, il attendait une autre réponse, mais voilà, Dieu a décidé de faire quelque chose sur Juda. On dit souvent que Dieu est souverain, mais on ne comprend pas la profondeur de cette souveraineté. Dieu fait ce qu'il veut. Et nous, de temps en temps, on lui dit comment il faut faire. Dieu veut qu'on prie, évidemment, on est des êtres humains, il le sait. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Et ça, il faut, je pense, à un moment, l'intégrer dans notre cœur. Autrement, on va toujours crier à l'injustice, etc. Et on n'aura toujours pas compris qui est notre Seigneur, en fait. Dieu fait ce qu'il veut, ça ne veut pas dire qu'il ne travaille pas avec nous, mais il reste le maître de ce monde. Et Dieu travaille là sur deux tableaux en même temps. Non seulement il va purifier Juda, mais en même temps il va conduire les Chaldéens à être jugés aussi. Nous, on n'arrivera pas à travailler de cette manière-là. Mais Dieu, lui, c'est un grand mathématicien, il a des équations que moi je ne comprends pas, mais il y arrive, c'est Dieu, tout simplement. Il va purifier Juda et il va juger aussi les Chaldéens. Quelqu'un écrivait en parlant de cette situation où tout semble désespéré. Tout cela me fait penser à l'histoire d'un homme qui avait fait naufrage sur une île déserte. Il construisit avec soin une petite hutte pour s'abriter et pour ranger les quelques affaires qu'il avait pu préserver de la tempête. Pendant des semaines, il survécut avec pour seule compagne le soleil brûlant, les nuits fraîches et les tempêtes tropicales. Il pria et scruta l'horizon pour tâcher d'apercevoir un navire, rien. C'est pas Robinson Crusoe, c'est autre chose. Puis un soir, après être allé chercher de la nourriture, il constata avec horreur que sa petite hutte était en flammes. Consterné, il resta cloué sur place, incapable de remédier au désastre. Ses rares affaires venaient de partir en fumée. Ce soir-là, il se blottit près des cendres, au bruit des vagues déferlant sur la plage, totalement désespéré. Vous avez déjà eu des situations comme ça ? Vous avez fait tout ce que vous pouviez, et puis finalement, c'est tout le contraire de ce qui se passe. Mais le lendemain matin, en se réveillant, il remarqua un bateau ancré près de l'île. C'était le premier qu'il voyait depuis des semaines. N'en croyant toujours pas ses yeux, il entendit un bruit de pas, puis la voix du capitaine qui lui dit « Nous avons reçu votre signal de détresse et nous sommes venus à votre secours. » Tout ce que le pauvre naufragé possédait avait dû être brûlé, détruit, avant qu'il puisse être en fait découvert et sauvé. Dieu semblait bien loin et pourtant, il œuvrait sur les deux tableaux en même temps. Il avait amené le bateau tout près de l'île, juste au bon moment. Il avait réduit à néant les ressources du naufragé pour le jeter à genoux. Dieu fait des fois des choses qui nous paraissent complètement curieuses, mais il ne travaille pas que sur une situation. Il travaille sur un milliard de situations en même temps et il arrive à gérer tout cela. Donc quand tout semble désespéré, qu'est-ce qu'il faut se dire? Vous n'êtes pas sur une île déserte? Déjà, c'est pas mal, non? Ben, c'est pas la fin, en fait. Et Dieu est certainement en train de travailler. Alors, il prendra son temps, certainement, mais ce n'est pas la fin. Et Dieu ne se moque pas de vous. Il sait pourquoi il fait cela. Moi, j'attends d'être là-haut et demander à Dieu, parce que je vous pousserai un petit peu. Moi, je vais voir Jésus et je lui demande, pourquoi tu as fait ça là? Pourquoi tu as fait ça là? Pourquoi tu as fait comme ça? Moi, je n'aurais pas fait comme ça. J'avais un bon plan, il était super. Non, on a des bons plans. On sait comment il faut faire, normalement. Eh bien, Dieu, j'attends sa réponse, parce que j'aimerais quand même savoir. Je suis comme vous, Mon cœur, des fois, je le déverse aussi auprès du Seigneur, et je ne comprends pas toujours ce qu'il fait. Mais il fait bien. Pour nous, aujourd'hui, le monde compte aussi sur ses forces. Et de plus en plus, j'ai l'impression. Et leur Dieu, aujourd'hui, c'est la science, c'est l'argent, c'est le pouvoir, etc. Rien n'a vraiment changé depuis l'époque, j'ai l'impression. Mais le chrétien, lui, désire que Dieu soit le Dieu de ce monde. Ça vous dit qu'un jour, Jésus-Christ soit le président de la France? Je ne sais pas si on veut dire amen, parce que peut-être nous-mêmes, on va être pris. Ah, oui, parce qu'on est si juste que ça. Si Dieu, Jésus-Christ établissait vraiment la vraie justice maintenant en France, il ne faut pas regarder que les autres, des fois. Nous aussi, on a peut-être des choses à nous reprocher ou on pourrait améliorer. Enfin, je le veux aussi, évidemment. Mais un jour, Jésus-Christ sera le prince, le roi de ce monde, quand il reviendra, et qu'il instaurera son royaume. Et là, une vraie justice parfaite sera sur ce monde et le moindre péché sera puni immédiatement. Il n'y aura plus de recours aux tribunaux. C'est réglé tout de suite. Ça sera chouette. Mais nous, on sera déjà ressuscités, donc trop tard. Mais bon. Pour nous toujours, le chrétien sait aussi qu'un jugement terrible attend ce monde. Alors nous, on va dire, oui, c'est bien fait pour eux, ils sont pécheurs, ils ne veulent pas de Dieu. Mais des fois, j'en parle comme ça et j'aime pas le faire, mais parce que c'est vrai, c'est aussi des gens de notre famille qui vont passer par le jugement de Dieu. Et ça, on n'y pense pas souvent. Eux aussi, ma sœur peut-être, ma mère, mon conjoint, risquent peut-être de partir en enfer un jour parce qu'il n'a pas accepté Jésus-Christ dans sa vie. Alors c'est sa responsabilité, mais j'ai la mienne aussi. Parce qu'on peut dire, oui, il y a un jugement, et puis tant pis pour eux. Ou alors je peux me mettre en question et me rendre compte que c'est un fardeau de Dieu qui veut que tout soit sauvé. Ça veut dire que si j'ai compris le fardeau de Dieu et qu'il fait tout pour que les gens soient sauvés, il va faire Jésus-Christ, mais il y a des gens qui sont censés témoigner, évangéliser, alors ça devient mon fardeau et à ce moment-là, je ne l'accepte plus de la même manière. Et je vais prier, je vais prendre ce fardeau sur moi, je vais devenir une sentinelle pour que ma famille, mes voisins, mes collègues de travail puissent connaître Jésus-Christ dans leur vie. Ça change la façon de vivre après, complètement. Il faut prendre le temps de prévenir ce monde. Habacuc, lui, le fait. Il a prévenu certainement plusieurs fois le peuple. Il a dit, arrêtez, 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 parce que Dieu fait ce qu'il dit et va faire ce qu'il dit. Et comme il aimait en plus beaucoup ce peuple, j'imagine le fardeau qu'il avait sur son cœur à ce moment-là. Est-ce qu'on aime à ce point-là la France, les Français, mon voisin, mon collègue de travail, même s'il me saoule des fois, mon directeur, je ne sais pas, ma famille, non, je l'aime, mais est-ce que je prie tellement pour cela? Dans cette deuxième partie, on voit que Dieu partage avec sa sentinelle ses projets. C'est beau quand même de voir ce dialogue qu'il y a entre Dieu et Habacuc, non? Dieu s'exprime. Alors aujourd'hui, il ne le fera pas de la même manière puisque nous avons maintenant la Bible et qu'on peut savoir ce que Dieu disait à ce prophète. Mais Dieu veut justement qu'on partage avec lui ses projets, ce qu'il veut faire avec ce monde. Mais la vraie question après, c'est « Ok, je veux être sentinelle, je veux bien écouter le fardeau de Dieu, mais est-ce que je suis prêt à l'accepter aussi ?» C'est ça le problème. Parce qu'une sentinelle est prête aussi, avec toute la difficulté qu'il faut, mais aussi à accepter le plan de Dieu. Là, on a un peu plus du mal, des fois. Parce que s'il ne correspond pas au bien, il y a beaucoup de chrétiens qui ont pété un plomb à un moment. Parce qu'ils avaient décidé que Dieu ferait comme ça, et finalement, Dieu n'a pas fait comme ça. Alors bon, on maudit Dieu à un moment. Mais si je veux être une sentinelle, je dois aussi accepter la douleur, on pourrait dire, de voir mon refus, peut-être, et de ne pas voir les choses comme moi je les vois. Mais en même temps, il y a la joie de savoir que Dieu reste souverain. Et donc, si j'ai compris cela, avec toute la douleur, peut-être ça peut faire dans le cœur, mais je sais que Dieu va agir. Ça, ça me redonne de la joie. Non ? À la fin du livre, il dit « Le juste vivra par la foi, c'est le leitmotiv de ce livre, on verra ça plus tard. Troisième chose qu'on peut voir dans ce texte, c'est que la sentinelle donc, doit accepter les réponses de Dieu. Comment Habacuc va pouvoir accepter une réponse si difficile ? Parce que nous, des fois, on se dit « Ah, Dieu ne répond pas parce que je cherche du travail » ou parce que... Il y a des petites choses. Là, c'est un peuple qui va ravager un autre peuple. Et nous, on pleurniche des fois. Excusez-moi. Là, on n'est pas dans la même situation. Mais lui, à partir du verset 12, qu'est-ce qu'il dit ? « N'es-tu pas de toute éternité, éternel mon Dieu, mon Saint ? Nous ne mourrons pas. » Il est en train de faire une espèce de confession de foi, de se souvenir de qui est Dieu. Et dans ces situations-là, je crois que nous-mêmes, on doit s'arrêter, plutôt que gémir, parce qu'on aime gémir d'abord, s'arrêter et se dire « Qui est Dieu à propos ?» C'est qui que je suis en train de suivre là ? C'est un Dieu qui est loin, qui comprend rien à moi ? Non, il est de toute éternité, nous dit Habacuc. Il est son Dieu à lui, son saint, son rocher. Et là, il dit beaucoup de choses quand même, parce qu'il s'appuie dessus. Il met tout son poids sur ce rocher et il a toute la confiance en Dieu. Et Dieu fait autre chose que ce qu'il pense. Mais bon, il sait que Dieu est saint, et surtout parce qu'il sait que Dieu est saint, il sait qu'il ne peut pas voir le mal. Lui-même reconnaît que ce peuple de Juda pêche et triche avec Dieu. Mais Dieu est saint, davantage que nous. Et lui, face à cette sainteté, il est obligé à un moment de punir ce mal parce qu'il ne peut pas le voir, tout simplement. Et pour remettre en question, évidemment, Juda. C'est en fait sa connaissance de Dieu qui va lui permettre de tenir bon et qui va lui donner de l'assurance. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de sentiments, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fâché, on a bien compris. Mais malgré tout cela, il dit « nous ne mourrons pas ». Il a de l'espérance quelque part pour lui, parce qu'il sait qui est Dieu. Mais si je ne connais pas Dieu, si je n'expérimente pas Dieu dans ma vie, si je ne prends pas le temps d'avoir une relation régulière avec lui, lire la Bible, parce que c'est comme ça que Dieu a la relation aujourd'hui, si je ne prends pas le temps de prier, face à la première épreuve que je vais avoir, boum, badaboum, je pleure, je me plains, et puis Dieu n'était pas juste, etc., etc. Habacuc, qui aurait pu très bien dire que Dieu n'est pas juste, a accepté à un moment de s'arrêter, de considérer devant qui il se tient, et d'accepter tout simplement la réponse de Dieu. C'est sa connaissance de Dieu qui lui permettait d'être fort à ce moment-là, et d'avancer dans une circonstance des plus difficiles. Il comprenait aussi qu'un jour, ces Chaldéens vont être jugés. Ok ? Aujourd'hui, il y a des gens qui pêchent, qui nous font du tort. Alors, il ne s'agit pas d'attendre tous les jours à savoir c'est quand tu vas le punir, c'est pas ça. On ne cherche pas la vengeance. Mais on sait qu'un jour, Dieu va aussi agir. Ça peut prendre du temps ou ça ne va même pas se faire tout de suite, mais Dieu va agir un jour, de toute façon. Ce n'est pas à nous, la vengeance, c'est à l'Éternel. Mais pour l'instant, comme il dit, et c'est curieux le paradoxe, ce peuple chaldéen sert Dieu. Bizarre, non, quand on réfléchit. Ces ennemis de Dieu, ils sont en train de servir tout simplement le Dieu des cieux. Alors pas dans le sens comme nous, le service, on est bien d'accord, mais ils sont dans la combinaison, dans la souveraineté de Dieu, tout simplement. Et Habacuc comprend les plans de Dieu. Luther disait « Prier, ce n'est pas vaincre la résistance de Dieu, c'est plutôt saisir sa bonne volonté. » Souvent, on prie jusqu'à ce qu'on arrive à fléchir Dieu, comme si on pouvait y arriver, déjà. Mais on a l'impression qu'on va réussir à un moment à ce qu'il craque, devant mes pleurs, devant mes larmes, etc. Vous croyez que Dieu craque ? Non. Par contre, il dit, c'est saisir sa bonne volonté. Plutôt que de remplir sa chambre avec de l'eau de nos larmes, tantôt, il devrait peut-être s'arrêter et se dire, peut-être Dieu pense autrement que moi. De toute façon, vous imaginez si on avait un seul projet ici et qu'on se mettait à 40 à réfléchir là-dessus, on aurait tous une autre façon de faire, déjà. Donc nous, ma réflexion n'est pas souvent très, très juste. Mais si je prie, ce que je désire, c'est comprendre la volonté de Dieu. Ce n'est pas le faire fléchir. Et c'est ce que fait tout simplement Habacuc. Il veut comprendre le plan de Dieu, et il a compris le plan de Dieu, de ces Chaldéens qui va juger Juda. C'est difficile à accepter, et je le comprends, et je n'aurais pas voulu être à sa place. Mais il comprend aussi que ce jugement, il est juste. Ça aussi, c'est dur des fois, de voir des milliers de personnes qui vont se faire massacrer, tuer, torturer, des gamins qui vont mourir, etc. Ça, c'est juste devant Dieu. Allez visiter l'enfer. Vous croyez qu'il y a quoi ? Que des hommes de 80 ans là-dedans ? Il y a plein de personnes de différents âges, de différents sexes, etc. Enfin, il n'y en a que deux. Mais voilà, c'est des gens que Dieu a jugés justement. Mais nous, on a nos sentiments des fois. Et on a tendance à voir Dieu plutôt avec de l'amour. Mais l'amour et la justice, je l'ai déjà dit plus d'une fois, c'est lié complètement. Si je veux aimer parfaitement, je dois être parfaitement juste avec celui que j'aime, hélas. Et donc Habacuc, lui, a compris cela. Le jugement de Dieu est juste. Il décrit en même temps l'état de Judas, donc lui-même a compris qu'il méritait à un moment d'être puni. Mais il accepte la réponse de Dieu. Il a ses doutes, il a certainement toutes ses questions dans sa tête, mais il accepte tout simplement la réponse de Dieu. On va se retrouver devant des situations comme ça. Hein. Croyez pas que c'est arrivé, peut-être pas à ce point-là, mais des choses qui nous pèsent certainement dans notre vie, que nous ne comprendrons pas. Plutôt que de pleurer, de continuer à lutter contre Dieu, prenons le temps d'essayer de comprendre la volonté de Dieu, même si on n'arrivera pas forcément à la saisir, mais à se dire peut-être, tiens, Dieu a un plan que moi je ne comprends pas pour l'instant, mais laissons-le agir, je suis sûr qu'il sait comment il faut faire. Mais ce n'est pas évident, parce que c'est ça qu'on appelle la foi. On dit on a tous la foi, mais quand on passe ce genre de difficultés, notre foi, d'un seul coup, elle s'ébranle complètement. Mais Dieu permettra qu'il y ait des occasions comme ça dans notre vie pour justement que cette foi grandisse et qu'on croit vraiment en Dieu. C'est facile de dire « je crois en Dieu » quand j'ai ma belle maison, j'ai mon travail, tout va bien, j'ai aucun problème, je crois en Dieu. Et si tout est enlevé comme pour Job d'un seul coup, qu'est-ce que je vais dire ? Alléluia, gloire à Dieu, je viens dimanche, on va chanter. Bon, on n'est pas content évidemment de tout perdre, mais je pense qu'il y aura une grosse remise en question dans la tête à ce moment-là. Mais Job, lui, il a tenu, même alors qu'il était en train de souffrir, et que sa femme lui disait « renie Dieu », il a accepté ce que Dieu a fait dans sa vie. Quand on voit encore ce Habacuc qui se plaint, hein, parce qu'il se plaint là-dedans, on voit plusieurs plaintes, plusieurs formes de plaintes, et ça nous rappelle peut-être nous-mêmes. Hein. Pourquoi le juste devra subir la punition des injustes ? Pourquoi Dieu accepte-t-il que lui qui est juste, ou peut-être d'autres qui sont justes, soit frappé de la même manière que les injustes ? Vous avez une réponse ? Non plus. Mais il s'est posé la question et Dieu ne lui fait pas le reproche. Peut-être qu'il compare là, Judas et les Chaldéens. Est-ce qu'il pense que Judas est plus juste que les Chaldéens ? Est-ce qu'on peut comparer comme ça devant Dieu ? C'est vrai que les Chaldéens étaient vraiment un peuple terrible, mais attendez, Judas connaissait le Dieu, connaissait l'Éternel, a eu les lois, a vu des miracles, a vu des choses que vous n'avez jamais vues, et malgré tout cela, Dieu, on n'a pas besoin de toi. Qui est le plus juste là-dedans ? On a tendance à avoir un système de justice personnelle, hein, et on l'établit avec sa sensibilité, avec son passé, peut-être sa culture, je ne sais pas, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu, lui, est juste, et notre justice à côté, c'est vraiment la gnognotte. Hein. Et si Dieu permet que le juste soit frappé avec l'injuste, c'est qu'il a une raison, et il faut l'accepter tout simplement. Ce n'est pas se poser la question, enfin, ce n'est pas trouver une réponse, mais c'est plutôt se soumettre à la réponse de Dieu. Et ça, c'est autre chose. La deuxième plainte, c'est pourquoi Judas doit être traité comme n'ayant pas de maître et de chef. On voit ça au verset 14, où il fait une espèce de comparaison avec les poissons et les reptiles qui sont sans maître. Alors, je sais pas, moi, j'avais jamais fait attention que c'est vrai, les poissons, ils n'ont pas un chef. Hein. Mais ils se suivent tous ensemble. Bon, enfin bref. Mais il fait là une espèce de métaphore. Ces poissons, ces reptiles sont sans maître. Et c'est que des poissons, on va dire. Hein. Mais Judas, c'est quand même le peuple de Dieu. Pourquoi il fait comme si c'était des poissons ? Pourquoi c'est rien du tout devant Dieu d'un seul coup ? Et il continue la métaphore, hein, il voit les Chaldéens qui les pêchent, hein, alors pas pêcher dans le sens aller contre Dieu, mais pêcher comme le pêcheur. Hein. Il les pêche là comme des poissons, comme si c'était rien, hein, comme si c'était juste des poissons, ces pauvres gens. C'était quand même des parents, c'était des enfants, c'était des maris, etc. Mais là, les Chaldéens viennent et les pêchent comme si c'était rien. Ils n'ont plus aucun chef, en fait. Personne pour les protéger contre l'ennemi, tout simplement parce que chacun fait ce qu'il a envie. Et forcément, quand on fait chacun ce qu'on a envie, quand il n'y a plus de règles, ben, c'est le why, c'est le bazar, hein, évidemment. Mais si Judas était sans chef, c'est bien parce qu'ils avaient aussi rejeté Dieu. Il y a des conséquences. Hein. Pourquoi ça m'arrive ? Oh, c'est vrai que je n'obéis plus à Dieu en ce moment. Pourquoi ça m'arrive ? C'est bizarre, hein, des fois. Et après, quand on prend un peu le temps de réfléchir, on peut se poser la question, mais où est-ce que j'en suis vraiment avec Dieu ? Est-ce que je le suis vraiment ou pas ? Et bien souvent, bah, c'est parce qu'on est sans chef ou nous-mêmes, nous ne sommes pas notre chef dans notre vie. Puis une troisième plainte qui fait Habacuc, hein, c'est pourquoi l'injustice perdure. Ça, vous avez déjà dû le dire une fois ou deux dans votre tête, non ? Pourquoi il y a toujours cette injustice dans ce monde ? Ouvrez la télé, il n'y a que de l'injustice. Allez dans votre boulot, il n'y a que de l'injustice. Dans la famille, même des fois, il y a l'injustice. C'est pénible ! Pourquoi tout est injuste ? Moi, je dirais même pourquoi moi, je suis injuste des fois avec les autres, parce que ça m'arrive aussi de l'être, hélas. Mais il fait le même constat que nous aujourd'hui, et cette injustice, elle perdure. Mais moi, on me dit que Dieu, il est juste, que Dieu peut m'aider, que Dieu peut agir, etc. Mais qu'est-ce qu'il fait ?
dites pas ça des fois?
Qu'est-ce qui fait Dieu? Et c'est pour ça qu'il y a des païens qui disent, mais il est où votre Dieu? Pourquoi il y a les guerres et tout ça? Ouais, mais les guerres, c'est vous qui les faites, c'est pas Dieu qui a décidé ça. Et c'est à cause de votre injustice, justement. Mais voilà, l'Habacuc est comme nous, hein, vous voyez, c'était un prophète, un grand prophète, mais qui a le même cœur que chacun d'entre nous, et se poser des questions. Les Chaldéens, eux, sont injustes, ils font hommage à leur propre force, hein, par leur sacrifice, etc. Ils sont heureux d'être cruels, ils sont heureux d'être méchants, ça leur pose pas de problème. Évidemment, en face, le juste, lui, bah, ça le bouffe complètement, hein, de voir ces gens qui ont... Ça leur pose pas de problème. Et c'est dans le moment même, est-ce qu'ils vont agir comme cela toujours? Alors non, évidemment, si vous connaissez l'histoire, puisqu'à un moment, c'est Alexandre, si je me souviens bien, qui va venir prendre le pouvoir, mais c'est un temps. C'est qu'un temps où le méchant peut agir. Ce temps, c'est le temps de Dieu, et quand Dieu a décidé que c'est fini, c'est fini. Et les Chaldéens vont être sévèrement jugés aussi plus tard. Mais là, c'était le plan de Dieu. Et pourquoi il voulait que ça soit comme ça? Écrivez-lui, il vous répondra. Mais Habacuc avait un sentiment d'impuissance, de totale impuissance face au mal, face à l'injustice. Et ça, je pense qu'en tant que chrétien, nous le vivons, et nous le vivons aussi, je pense, de temps en temps. Peut-être pas pour les mêmes causes, mais quand je regarde des fois la France, quand je regarde même l'Église, tout simplement, pourquoi? Pourquoi on en est là? Pourquoi il y a tellement de divisions? Pourquoi il y a toutes ces choses-là? On a le même Dieu, normalement. Et c'est dur des fois de le porter. Mais bon, si on est sentinelle, il faut accepter aussi la douleur de temps en temps. Il faut accepter de souffrir pour ce qui est juste, justement. Remarquons que Dieu ne fait pas de reproche à Habacuc dans ses plaintes. Pas une fois. Il lui répond gentiment. Alors peut-être le texte ne dit pas, mais est-ce ça veut dire que je peux me plaindre? Je fais une différence entre le murmure. Hein, vous vous souvenez du peuple d'Israël dans le désert, murmurait. Oh là là, on est dans le désert, avant on était en Égypte esclave, on avait plein à manger, c'était chouette d'être esclave, un peu tordu. Je pense qu'il y a le murmure, celui qui se plaint, qui voilà, gna gna, hein. Et il y a la plainte, on va dire, mature, dans le sens où, en tant que sentinelle, Habacuc avait réalisé des choses vraies, des choses que Dieu partageait avec lui, et se peignait pour rappeler qu'il est un être humain, tout simplement. Et Dieu ne le reprend pas, peut-être qu'il l'aurait fait, je ne sais pas, ce n'est pas marqué en tout cas, mais Dieu écoute sa sentinelle. Dieu écoute celui qui se plaint, et pour des choses justes, on va dire. Et c'est formidable de se dire que, quand je me débat en bas sur la terre, moi tout petit, Dieu là-haut, il me regarde, il m'entend, il m'aime. Pas formidable ça? Et nous, on dit, tu m'aimes pas. Mais lui, il me dit, je t'aime en fait. Et je sais ce qui se passe en ce moment, mais calme-toi Emmanuel. Prends patience tout simplement, j'ai un plan pour toi, j'ai un plan pour la France, j'ai un plan pour le monde. Il écoute la sentinelle. Et ça, je pense que c'est rassurant de se dire, même si on n'entend rien, même si on ne voit rien, la Bible me dit que Dieu m'écoute. Alors ça, quand on l'a intégré, ça devrait changer en fait toute notre vie. Dieu m'écoute. Je le dis à moi là en ce moment, parce que des fois, je suis comme vous, évidemment. Mais Dieu m'écoute. Et Dieu préfère, j'ai envie de dire, des gens qui se plaignent pour ce qui est juste, plutôt que des gens qui sont complètement indifférents, qui vivent leur vie chrétienne et qui s'en fichent complètement de ce que Dieu veut, de ce que Dieu peut, de ce qu'il est souverain, etc. Bon, ils auront leur récompense. Pour nous, aujourd'hui, hein, face à l'injustice, eh ben, plutôt que se plaindre, on est des êtres humains, on est bien d'accord, mais plutôt cherchons plutôt à contempler Dieu, dans le sens où, est-ce que Dieu sait ce qu'il fait? Elle n'avait pas l'air convaincue, hein. Parce que Dieu sait ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu, il est souverain. Donc pourquoi moi je remets en question tout le temps ses plans? Je sais qu'il sait. Je sais comment il sait, comment il va faire, etc. Pourquoi moi je passe à autre chose chaque fois? Contempler Dieu, adorer Dieu, c'est ça aussi, c'est contempler la personne de Dieu. Parce qu'adorer souvent c'est chanter, etc. Mais vraiment adorer, c'est contempler la personne de Dieu. On peut le faire sans chanter. On peut le faire dans les situations délicates comme là. Lui, il contemplait en fait qui était Dieu, et parce qu'il savait qui était Dieu, le voyait, il était rassuré dans son cœur. C'est pas évident, mais c'est ce que la Bible nous dit en tout cas. Et en contemplant Dieu, il sait que Dieu est parfaitement juste. Même si ici-bas, moi j'interprète à ma manière, Dieu reste parfaitement juste. Et donc, rassuré de cette justice de Dieu, on peut accepter certaines situations dans notre vie. Pour nous toujours, cela permet d'accepter les réponses difficiles de Dieu et ses plans un peu bizarres, pas les miens en tout cas. accepter tout simplement que Dieu va agir d'une autre manière. Pourquoi il fait comme ça? C'est souvent avec le recul qu'on va dire « Ah oui, Dieu a bien fait hein. ». Mais quand on est dans la situation, les plans de Dieu, ils sont bizarres. Et puis ça permettra aussi de comprendre les contradictions de Dieu, s'il peut y en avoir éventuellement, mais là on parle plutôt de nos contradictions, c'est-à-dire de « je connais un Dieu, ou du moins je crois connaître un Dieu, et puis il agit différemment de ce que je connais ». Alors c'est peut-être parce que je ne connais pas assez Dieu, ou que je n'ai pas une vraie relation avec Dieu, que je vais dire que Dieu est contradictoire parfois entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Dieu n'est pas contradictoire. Voilà. Depuis le début jusqu'à la fin, il fera son plan, un point c'est tout. Mais ça pousse à vouloir mûrir spirituellement. Parce qu'on cède facilement aux épreuves, on cède facilement aux difficultés, parce qu'on manque justement de maturité spirituelle. Et là, notre cher Habacuc, qui était quelqu'un de mûr, qui était prêt à accepter l'inacceptable, on va dire. Et il nous montre toute son humanité en même temps. On aurait pu voir un prophète qui dit « Ah oui, amen, oh bravo, hein, c'est juste, ça aurait été bien. » Là, ça aurait été un peu plus dur pour nous, parce que là, on aurait été à des kilomètres de lui. Mais le Seigneur nous a laissé ce prophète pour nous montrer qu'il était comme nous, avec un cœur, avec un amour pour son peuple, avec l'incompréhension devant lui, mais qu'il a quand même accepté la réponse de Dieu, même si elle était carrément à l'opposé de ce qu'il attendait. Dure leçon pour nous, hein. On n'a pas envie de repartir après en se disant « ça va être ma vie, ça ». C'est ma vie aussi aujourd'hui, mais pas à ce point-là non plus. Donc pour terminer, Habacuc est une sentinelle qui passe du doute à la foi. On va voir ça au fur et à mesure dans le livre. Il est un être humain comme moi qui a ses doutes avec ses difficultés, ses faiblesses, mais tout doucement, Dieu va l'amener vers une grande foi, tout simplement. Mais c'est un long parcours, c'est une transformation qu'il accepte dans sa vie. Est-ce que nous voulons l'accepter, cette transformation? C'est ce qu'on appelle la sanctification. Est-ce qu'on est prêt à dire aujourd'hui, Seigneur, envoie-moi toutes les épreuves qu'il faut pour que je grandisse dans ma foi? Ah, vous me dites non, là. Mais vous voulez mûrir ou pas? Oui, il faut choisir. Hein. Alors, Dieu sait comment amener les épreuves, parce que si c'était moi, je ferais n'importe quoi. Lui, il sait comment nous transformer. Mais il faut que je sois prêt aussi à accepter. Hein. C'est un pas de foi aussi, hein, que de dire, OK, j'en suis là, je devrais être un peu plus loin. Maintenant, ben, mets les épreuves ou fais que je sois vraiment transformé et à ta gloire. Mais en même temps, ce texte nous dit que Dieu ne refoule pas nos questions. Dieu entend toutes vos questions. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en long, en large, en hébreu, en français. Faites-le. C'est bien de poser des questions. C'est bien d'avoir des plaintes justes, même quelque part. Il faut faire le tri, on l'a dit tout à l'heure. Mais Dieu veut justement qu'on dialogue avec lui. Hein, si je dis, ah, je crois que Dieu, ouais, puis je m'en fiche, je ne vais même pas lui poser la question. Vous êtes sûr d'avoir un dialogue avec Dieu? D'avoir une relation avec Dieu? Dieu veut que, justement, on lui pose des questions, qu'on parle avec lui. Évidemment, il nous répond aujourd'hui au travers de sa parole, mais vous savez, quand vous priez et que vous cherchez quelque chose, Dieu peut aussi vous conduire dans un texte, dans un passage, dans un psaume, etc., pour vous répondre. Il le fait, il le fera au travers des frères et des sœurs, peut-être. Mais il nous entend, amen, nous entend. Ça qui est important. Et il nous répond, pas tout de suite, mais il nous répond. Et en même temps, non seulement il sait que des fois la réponse est longue, alors qu'est-ce qu'il fait? Ben, il nous donne la force pour aller jusqu'à la réponse. Il est quand même bon, le Seigneur, non? On pourrait se dire des fois, wow, il commence à me saouler, à toujours se plaindre, ce Emmanuel là en bas, hein, en plus du pasteur, arrête de plaindre un peu. Oh, tu crois en moi ou pas? Mais Dieu me donne la capacité d'aller jusqu'au bout, à condition évidemment que je l'accepte, cette aide dans ma vie. Et surtout, et on va voir ça dans ce livre en entier, c'est que Dieu cherche des sentinelles dans notre ville. Il a besoin de sentinelles à Étréchy. Pourquoi? Il n'y a pas de lumière? Pardon?
Il veut être partout.
Il
veut être partout.
Mais pourquoi on a besoin de sentinelles dans ma ville, à Étréchy? Tout va bien là. Il y a des difficultés à l'étampe aujourd'hui. Il n'y a pas eu de guerre, non?
Pour sa gloire.
Pour sa gloire. Mais qu'est-ce qu'il y a dans vos villes?
Que ça continue à aller bien et que...
Alors on est un peu égoïste, moi je suis un peu plus...
Il y a surtout des personnes qui ne connaissent pas Dieu.
Mm-hmm. Ben voilà. Alors je veux bien aussi que ça continue bien, hein, on est bien d'accord. Mais ça, c'est Dieu qui s'en occupe, donc je ne m'inquiète pas trop. Mais voilà, il y a des gens autour de nous qui ne connaissent pas le Seigneur. Et si je suis une sentinelle, j'observe cette ville. Hein, je le dis souvent, mais quand je suis à Leclerc ou ailleurs, je ne veux pas faire de pub, il faut que j'efface. Mais je regarde autour de moi à la caisse et je dis, tous ces gens-là partent pour l'enfer peut-être. Et je paye, je m'en vais tranquillement. Alors, on ne peut pas prier pour tout le monde, on est bien d'accord, mais Dieu nous a placés à un endroit avec un champ. missionnaire, entre guillemets. Hein, et c'est là où moi, je dois travailler en tant que sentinelle. Ce n'est pas à moi de faire votre travail et vous n'avez pas à faire le mien. Mais chacun est là où Dieu l'a placé et vous avez des collègues, vous avez une famille, vous avez des amis, vous avez des voisins autour de vous. Et si vous voulez devenir une sentinelle, eh ben, vous allez commencer à prier pour eux. Et à ce moment-là, vous allez peut-être voir des choses qui vont bouger. Ou pas, mais ça va peut-être bouger. Et si l'Église se met vraiment à prier comme Habacuc priait, avec vraiment le désir de voir mon voisin se convertir, je le veux, pas juste pour prier, je veux vraiment le voir, bah, vous croyez que ça va bouger ? Oui ou non ? Ça, c'est le plan de Dieu, on verra bien. Mais au moins, je l'aurais fait. Ça, la nuance. Parce que si je me retrouve devant le Seigneur, il dit, bah, t'as rien fait, t'as pas prié, t'en foutais. Non, là, il pourra dire, oui, j'ai vu, tu étais sentinelle, tu as prié, bon, j'ai pas agi comme tu voulais, mais tu es prié, et tu étais là, fidèle serviteur, tout simplement. Donc Dieu cherche des sentinelles dans notre ville, dans notre village, et il faut savoir nous-mêmes être à l'écoute de Dieu. Dieu aime les gens à Étréchy, Dieu aime les gens à Étampes, Dieu aime les gens jusqu'à dans le monde entier, et parce qu'il les aime, il veut qu'ils soient sauvés, donc voilà mon fardeau à moi. Je veux que, d'une manière ou d'une autre, je puisse les contacter, leur parler, tout simplement, de la grâce. De Dieu. Seigneur, merci pour le livre d'Habacuc et merci d'avoir utilisé un tel homme qui finalement nous ressemble tellement, qui est sensible, Seigneur, qui a un cœur, qui se plaint. Mais justement, Seigneur, ce livre nous rappelle que nous devons profondément changer dans notre vie nos habitudes, ces petites prières de temps en temps jetées ici et là, ce temps que nous prenons avec toi dans la lecture de la parole, dans la compréhension de qui tu es, Seigneur. Il faut vraiment que tu nous transformes, Seigneur, pour qu'on mûrisse dans ce domaine et que l'on saisisse pleinement ta personne, ta grandeur, ta majesté, Seigneur, et ta sainteté, comme Habacuc l'avait saisi. Et comme pour lui, Seigneur, ce sera sur cette confession de foi, sur cette connaissance de qui tu es réellement, Seigneur, que nous pourrons aussi accepter tes plans, qui ne sont pas voire curieux, comme on l'a dit, mais qui sont tes plans et comme tu es souverain, ils sont absolument parfaits, Seigneur. Nous avons besoin de sentinelles d'abord pour nous-mêmes, mais pour l'Église, pour ce monde, comme les uns et les autres l'ont dit, parce que nous voulons comme toi que des gens soient sauvés. Seigneur, nous puissions prendre ce travail au sérieux, très au sérieux, parce que je pense que tu nous en feras le reproche une fois là-haut, mais que nous mettons au travail, Seigneur, et que nous ayons la joie de voir d'autres personnes passer de la perdition au salut. Ce sera là notre récompense et toute notre joie. Que ton nom soit glorifié ce matin dans cette assemblée. En Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen. Amen.